Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Aignot et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où habituellement, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Aujourd'hui, pour fêter le 50e épisode, je vous propose un format un peu particulier. Ça va être une interview où c'est moi qui me plie à l'exercice d'être l'invité du jour. Et dans cet épisode, je réponds aux questions de mon amie Estelle, créatrice du podcast Réel avec un S, que certains d'entre vous doivent certainement connaître d'ailleurs. Si ce n'est pas le cas, au-delà de cet épisode avec moi que vous vous apprêtez à écouter, je vous invite bien évidemment à découvrir l'intégralité de ces épisodes et en particulier un que j'ai beaucoup aimé avec le philosophe Charles Pépin, que j'ai aussi envisagé d'inviter sur le gratin et qu'Estelle a su apprivoiser. Si vous voulez suivre Réel sur les réseaux sociaux, ça se passe en particulier sur Instagram avec le pseudonyme @réel sans accent et avec un S tiré du 8 réel que je vous mets en note dans le descriptif de l'épisode. Avec Estelle, on a brassé large puisqu'elle me connaît vraiment très bien depuis assez longtemps maintenant. On a bien sûr parlé de Gémio et en particulier de travail en couple, un sujet que j'ai finalement assez peu abordé dans le podcast et pourtant je sais qu'il intéresse de nombreux d'entre vous. J'ai beaucoup de demandes à ce sujet. On a parlé aussi de ma vision d'une boîte durable qui ne passe pas systématiquement par des levées de fonds mirobolantes mais plutôt par la volonté d'une croissance saine et rentable. De mon point de vue sur l'entrepreneuriat au féminin, et vous verrez qu'il est peut-être un petit peu particulier, et d'ailleurs mon point de vue de façon plus générale sur le monde du travail en tant que femme. On a parlé du podcast Le Gratin, bien sûr, de pourquoi je l'ai lancé, là où je veux l'emmener, de discipline, de kitesurf ou encore de stoïcisme, de livres, de plein de choses. Et pour être honnête, j'ai pas mal rechigné à faire un épisode aussi intime. Je n'avais pas très envie de m'auto-enregistrer. Je me suis dit qu'une personne de confiance comme Estelle serait probablement la meilleure solution. Donc je me suis un peu forcée, notamment à la demande de certains d'entre vous. J'espère donc que l'épisode vous plaira. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos feedbacks sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram au pseudonyme Pelegno. Enfin, bien sûr, je tenais à remercier mon amie Estelle pour sa bienveillance et son professionnalisme lors de l'entretien. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Pauline Aignot.
Pauline, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast.
Je suis ravie que tu m'aies proposé.
Nous sommes amis, c'est pas si grave de le préciser. Je suis ravie parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'admiration pour toi en tant que femme entrepreneuse. Et en tant que podcasteuse depuis un certain temps avec Le Gratin. Donc tu as fondé Gémio, je pense qu'on peut en parler un tout petit peu si ça ne te dérange pas.
Avec plaisir, évidemment.
Je voudrais que tu me parles de l'aventure entrepreneuriale que ça a représenté pour toi, parce que tu t'es avancé dans un secteur qui était quand même assez particulier, avec ton mari. Donc tu as une configuration
complexe
et une constellation encore plus complexe. Donc j'aimerais bien que tu m'en parles un peu.
Bah écoute, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. J'aime beaucoup ton podcast, donc ça me fait d'autant plus plaisir d'être dessus. Écoute, l'aventure entrepreneuriale, en fait, déjà, j'aime bien le fait que tu utilises le mot aventure. C'est un mot qui me plaît énormément. Je l'ai vraiment fait pour ça, l'entrepreneuriat. C'est parce que je voulais vivre des aventures et je considère que l'entrepreneuriat, c'est un peu l'aventure du 21e siècle. Avant, il y avait des aventuriers qui allaient... visiter des contrées complètement isolées, lointaines, etc. Malheureusement, à part l'espace, aujourd'hui, il n'y en a plus tant que ça. Mmh. Mais je considère qu'en fait, l'aventure n'est qu'à un pas et qu'on peut tout à fait se la créer en fait, assez facilement. Mmh.
Et moi, j'avais un parcours qui n'était pas du tout un parcours d'entrepreneur, parce que j'avais un parcours littéraire à la base, comme tu sais.
Ouais.
Et que finalement, me rendant compte que je ne voulais pas faire ça, j'ai un petit peu perdu de temps, parce que j'ai fait de très, très longues études en me disant qu'il fallait que je fasse un peu plaisir à mes parents, notamment, et puis surtout que je sois dans le droit chemin. Et en fait, à force de ne pas me poser de questions, je suis devenue assez malheureuse. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était complètement autre chose, que la route qui m'était toute destinée, tracée.
De professeur.
Enfin, qui était censée être enseignante, ouais. C'était, c'était le contraire de ça, en fait. C'était la liberté. Donc, c'était l'aventure, c'était la prise de risque, c'était la créativité. Je ne dis pas que quand on est enseignant, il n'y a pas tout ça. Mais en tout cas, ce n'était pas la manière dont ça me parlait. Et du coup, je me suis dit que je vais devenir entrepreneur à ce stade. Mais alors, le truc, c'est que j'avais strictement aucune idée de comment devenir entrepreneur. En plus, si tu veux, j'avais fait des dissertations toute ma vie. J'étais agrégée. J'étais quand même vraiment dans le monde un peu théorique. Et je pense que j'avais ce besoin, d'ailleurs, de concret, de pratique. Ça me manquait énormément. Et donc, c'est pour ça que
j'ai... Et ton papa est entrepreneur.
Mon père est entrepreneur. Et donc, c'est ça qui est drôle, si tu veux. C'est qu'évidemment, en fait, lui, il a tout... Enfin, il n'a pas tout fait, mais je pense qu'il avait un modèle aussi qui était le modèle de quelqu'un qui n'a pas fait d'études, où il s'est dit, je veux que mes enfants fassent des études.
Je connais bien.
Exactement. et voilà. Et donc, au bout d'un moment, moi, je croyant lui faire plaisir, je me suis auto-convaincue que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est pas ça pour toi et que finalement, t'es très proche de tes parents. Donc, je n'ai fait que reproduire le modèle familial, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et l'histoire de Gemio et du début de la création d'entreprise. Mais je le dis assez de façon assez libre, c'est que finalement, il se trouve que j'ai créé une boîte dans la joaillerie qui s'appelle Gemio. Ça aurait pu être autre chose. C'est juste que je cherchais une idée, que j'avais fait donc une école de commerce, d'ailleurs c'est là qu'on s'est rencontrés. Et j'avais pas d'idée. Et en fait, au bout d'un moment, quand mon mari m'a demandé de l'épouser, là en fait on a eu une épiphanie, parce que ça a été tellement déplaisant comme expérience qu'on s'est dit, mais il y a forcément une opportunité, c'est pas possible. Et donc franchement, j'ai envie de te dire, mais sans réfléchir, on s'est dit, il faut qu'on crée une boîte dans la joaillerie. Mais parce qu'en fait, on cherchait un prétexte, on s'est cherché juste une idée qui soit good enough pour se lancer, pour se mettre le pied à l'étrier, parce qu'on était tellement pas entrepreneurs tous les deux. Lui, il venait du monde du consulting, qu'on s'est dit, mais si ça se trouve, dans 3 mois, ça va se planter. En tout cas, il faut juste qu'on essaye. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et il se trouve que on a travaillé comme des fous et que ça a pris assez vite. Et donc, on a continué. Et en fait, on s'est passionné pour ce secteur par ailleurs. Mais disons que, si tu veux, c'était pas comme si j'avais eu un business familial dans la joaillerie pendant 10 ans, que j'avais étudié ce sujet, que j'avais fait des business plans. Pas du tout. On est allé hyper vite parce que vraiment, on voulait juste apprendre à être entrepreneur. Et c'est ça le début, en réalité, de Gemio.
Alors, je connais ton mari.
Oui.
J'ai encore de l'admiration, enfin, encore plus d'admiration pour le couple que vous représentez. J'aime beaucoup les aventures entrepreneuriales à deux. Ça peut faire peur sur le papier. Enfin,
oui.
Tu te souviens d'un certain mentor qui nous dit ne jamais s'associer avec son
tout
mari.
Tout à fait.
Mais j'ai constaté quand même que bien des couples durent parce qu'il y a des intérêts communs. Alors, je peux me tromper. Mais en tout cas, je suis assez curieuse de savoir comment on fait pour travailler au quotidien avec son mari ou sa femme. Qu'est-ce qu'il y a de... forcément, il y a des aspects positifs et négatifs. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus de l'association homme-femme, mari-femme.
Je vais dire la vérité, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les jours facile. Nous, on a fait ce choix-là un peu par hasard. C'est qu'on a eu cette idée en même temps, on y travaillait du coup en même temps et ensemble. Mais on ne s'était jamais dit qu'on allait créer une boîte ensemble. C'était pas comme si on avait ce schéma, si tu veux, alors que finalement mes parents travaillent ensemble, donc on aurait pu se dire que finalement, tu vois, c'était quelque chose de possible. Je pense que ça m'a rassurée d'ailleurs après de voir que mes parents arrivaient, tu vois, à travailler ensemble et qu'il y avait ce modèle. Mais en gros, ce que je peux te dire, c'est que déjà, quand on le sent pas à la base, je pense qu'il faut évidemment pas le faire. Nous, on a tout de suite su qu'on était relativement complémentaires. Lui, il est ingénieur, il est super carré, il est très c'est vraiment l'ingénieur, on va dire, dans toute sa splendeur. Moi, je suis pas du tout ingénieur. Moi, je suis une littéraire à la base, je suis plus commerciale, je suis plus créative peut-être aussi. Et donc, je pense qu'on de ce point de vue là en fait, on savait qu'on était assez bon dans un domaine où l'autre était mauvais. Et donc, du coup, que ce côté complémentaire, ça allait certainement être utile. Mais après, tu vois, ça aurait pu être avec n'importe quel autre associé, finalement, que j'aurais pu avoir cette complémentarité. Et pourquoi est-ce que travailler avec mon mari, je trouve que c'est particulièrement intéressant, et je pense qu'à la fois pour la boîte, ça a été bien, et pour nous, on est tellement passionnés du coup par ce qu'on fait qu'on en parle tout le temps. Souvent, des personnes qui créent des boîtes me disent c'est difficile de ne pas pouvoir partager ça avec son conjoint, parce que tu passes quand même 80% de ta vie au travail. Et là, en fait, on n'a pas le problème. Le matin, on prend le bus ensemble pour aller au boulot, on parle de boulot. Le midi, on déjeune ensemble, on parle de boulot. Le soir, on parle de boulot, tu le sais. On est ravis de le faire, on est super contents de le faire. Donc ça, c'est une
ça
première chose. Ça crée des liens, premièrement. Deuxièmement, si j'essaie de structurer un peu ma pensée, je dirais que ça nous a aussi beaucoup rapprochés. Parce que bah, déjà, tu vis des moments très difficiles. Tu vis aussi beaucoup de joie que tu aurais du mal à communiquer réellement, à partager, je pense, par des mots. Donc, je pense que ça, ça fait sens. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'on apprend à mieux se connaître réellement. Moi, je savais que je l'admirais par certains égards. En fait, ce qui est assez formidable, c'est quand tu apprends à admirer la personne encore plus pour des choses que tu ne suspectais pas. Mmh. Et je dois dire que c'est arrivé avec mon mari, et j'espère que lui, c'est le cas aussi. Mais tu vois, moi, il m'étonnait parfois sur des trucs où je me disais, mais comment est-ce qu'on va faire ça? Et lui, il me disait en deux secondes, non, mais attends, il n'y a pas de problème, tu me le donnes, t'inquiète. Mmh. Et à l'inverse, moi, je sais très bien que sur certains aspects, il aurait été incapable de le faire et qu'il se disait, mais que j'étais un génie, tu vois. Mmh. Et ça, je dois dire que ça renforce vachement le couple. Alors, évidemment, si jamais tu n'admires pas l'autre et que ça se passe mal professionnellement, je pense que pour le coup ça doit être très très dur au niveau du couple. Nous on a eu cette chance en fait de que ça fitte. Clairement, si ça marche pas, je pense que ça doit être quasi impossible que le couple s'en sorte. Mais de ce point de vue là c'est génial. Et puis le dernier point, c'est comme c'est un business familial, forcément t'as une vision long terme, t'as une vision qui est un petit peu différente, tu vois, que si t'es un associé. Et puis tu discutes de choses qui sont plus moyen long terme que si t'étais un associé entre guillemets lambda que tu connais pas vraiment, parce que là on sait que la boîte on veut la porter très loin, qu'on a tout le temps, qu'il y a plein de choses que tu peux évoquer, le fait d'avoir des enfants, etc. Il y a plein de choses que tu peux évoquer si tu veux, qui seraient plus difficiles je pense avec un associé qui est juste un ami ou finalement une relation professionnelle. Donc ça c'est les points positifs. Les points négatifs, c'est que tu te mets sur la gueule toute la journée, qu'en plus t'as pas le droit de le montrer aux employés. Enfin, c'est un enfer. Ça a des côtés positifs, mais c'est un enfer, faut être clair.
Ça fait partie des liens. Donc, Gémio, tu l'as créé quand ?
2011.
Voilà, 2011. Donc, le marché de la joaillerie, t'en penses quoi aujourd'hui ? Enfin, est-ce que ça a bougé ? Ça a pas bougé ? On en parle très rapidement, mais...
Non, écoute, le marché de la joaillerie, j'en pense quoi ? Il a pas énormément bougé. C'est pas un marché qui se porte très, très bien. C'est un marché qui est très puissant à l'international. Et d'ailleurs, les grandes maisons s'y trompent pas parce qu'en fait, leur clientèle, elle est à 90% internationale. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de compenser avec Gémio et de s'adresser plus à des Français. Après, si tu parles à des joailliers de quartier, si tu parles surtout des joailliers de quartier, parce qu'en fait, c'est ça l'essentiel du marché français, non, ça se passe pas très bien. Il se trouve que nous, on apporte quelque chose de nouveau, donc ça s'est quand même plutôt bien passé jusqu'à présent. Mais je dirais que c'est pas le secteur le plus facile pour plein de raisons, notamment parce que c'est des achats qui sont super engageants, c'est des paniers moyens qui sont élevés. Y a tout un certain nombre de choses qui sont complexes à gérer sur secteur, mais après c'est vrai qu'on a on a essayé d'apporter quelque chose de vraiment nouveau et je pense que ça parle quand même à une certaine clientèle. Donc,
Bien sûr. J'ai tendance à avoir des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais c'est pas grave, c'est assez naturel chez moi. on a parlé donc de ton association avec ton mari. Tu es une femme entrepreneuse, et je dis bien entrepreneuse parce que j'aime pas quand on dit femme entrepreneur. Mais femme entrepreneuse, quels sont tes conseils ? Enfin, qu'est-ce que... D'abord, première question en sous-question, c'est est-ce que tu considères qu'il y a une différence ? Est-ce qu'une femme entreprend différemment ? Est-ce que d'un homme ? Ça, moi, perso, je ne pense pas. Mais après, c'est chacun son point de vue. Et quels sont tes conseils ou tes tips ou, tu vois, pour ton équilibre perso ? Qu'est-ce que tu as pu découvrir ? Parce que tu as quand même créé une entreprise qui dure. Tu n'as pas monté un truc que tu as fait et que tu as vendu au bout d'un an. Ou trois ans. Quels sont tes conseils ou ta manière de t'inscrire sur la durée, d'être entrepreneur sur la durée et surtout en tant que femme, tu vois ce que je veux dire, parce que t'es quand même un modèle, tu portes la boîte, t'es pas un pion qu'on a mis là, tu vois ce que je veux dire, comme une patronne du CAC 40 qu'on place, etc. Enfin, c'est ta boîte, c'est ton bébé, et t'as quand même ta vie de femme personnellement, donc voilà, ma question est un peu longue, mais...
Non, pas du tout.
Tu vois, tes conseils, ce que tu as pu vivre en tant que femme entrepreneur ?
Écoute, c'est pas facile. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler toujours avec des personnes que j'avais choisies et avec mon mari qui m'aime, je pense. Et donc, si tu veux, j'ai jamais eu le problème, entre guillemets, d'associer... qui, je pense, ça peut arriver évidemment, d'associer misogyne ou ce complexe en fait de la femme vis-à-vis de l'homme, c'est quelque chose que j'ai pas tellement eu dans le cadre de mon travail. Je l'ai pas tellement eu dans le cadre familial non plus, et je pense que souvent c'est assez culturel parce que j'avais un papa qui était entrepreneur, qui a eu deux filles qui voulait des garçons et qui nous a et qui nous a élevés en fait en disant bah je suis très content d'avoir des filles parce que vous allez être encore mieux que tous les mecs. Et du coup voilà, donc Si tu veux, je fais des sports qui sont assez extrêmes, comme du kitesurf, beaucoup de ski à haut niveau. Et en fait, si tu veux, je pense que ça m'a appris aussi à ne pas avoir peur d'être une femme, mais une femme qui s'assume comme pouvant tout autant aimer jouer à des jeux vidéo que s'acheter une belle robe. Et j'ai pas peur de ces contradictions-là, parce que je les considère pas comme des contradictions, en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. C'est vrai qu'au niveau du travail, je pense pas être la meilleure personne pour te donner des réponses. Moi, j'ai jamais senti ça. Ce qui est certain, c'est que j'ai pu sentir quand même, quand parfois je vais à des réunions où je vois des hommes plus âgés, pas une défiance, mais un regard, tu vois, qui est différent. Je pense que notre génération aussi, elle a quand même pas mal évolué par rapport à ces générations-là, où c'est vrai que souvent, tu vois, ils te prennent un peu pour la secrétaire qui va porter le café quand tu débarques. Et en fait, ce que j'aime assez, moi, c'est quand tu débarques dans ce genre de réunion et tu leur fais comprendre très rapidement que non seulement tu n'es pas la secrétaire, mais que tu es la personne avec laquelle ils vont devoir interagir et qu'ils vont devoir peut-être négocier avec toi, enfin qu'ils vont devoir vraiment dealer avec toi. Et du coup, ce regard, il change complètement parce que tout d'un coup, tu peux avoir beaucoup de respect parce qu'ils sont étonnés. Et j'aime bien créer cet étonnement parce que je ne me fais pas d'illusions. Ouais. Je suis une jeune fille de 30 ans et quand j'ai créé la boîte, j'étais encore plus jeune. Et c'est vrai que pour un gars qui a 55 ans, il doit se dire, mais c'est qui celle-là, tu vois. J'aime bien justement cet effet de surprise, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et je pense que beaucoup de femmes parfois se mettent des limites aussi à elles-mêmes en se disant qu'elles n'en sont pas capables ou en se disant oh là là, il me prend pour la secrétaire et du coup qui ont cette rage que je peux comprendre. Mais moi j'ai envie d'être plus intelligente que ça, j'ai envie de leur montrer que justement je ne suis pas la secrétaire et que je suis là pour dealer avec eux. Et je pense que voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est pas d'être agressive du tout, garder sa féminité, mais montrer en fait qu'on est légal, tout simplement, ne pas se mettre en situation d'infériorité et ne pas non plus être dans le... tu vois, dans un côté assez agressif qui peut arriver parfois. Ouais. Donc, c'est ma vision, en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est ce que je suis et j'essaie juste de te l'expliquer. Après, au niveau de la boîte, de conseils à donner pour des femmes entrepreneurs ou entrepreneuses, c'est difficile à dire. Franchement, je fais pas tellement la différence, honnêtement. Je fais pas tellement la différence. Je pense qu'il y a une grosse différence, mais je ne l'ai jamais vécue, donc je me permettrai pas d'en parler. C'est quand on a des enfants. La maternité, qui est un sujet évidemment difficile. Moi, je suis pas persuadée d'en vouloir. Donc en fait, c'est vrai que c'est un problème qui se règle, si tu veux, de ce point de vue-là. Je pense que les femmes qui souvent ont des enfants, bah, forcément, ont un choix à faire entre le temps qu'elles ont envie de passer, ce que je comprends complètement, avec leur enfant. Ou leur famille et le fait de travailler. Et quand on est entrepreneur, on passe quand même beaucoup beaucoup de temps à travailler. Moi, je le dis régulièrement, j'ai dû faire des choix, en fait, hein. On est amis, tu le sais bien, on se voit pas aussi souvent que j'aimerais, que tu aimerais peut-être. Mes parents, c'est pareil, ma famille, c'est pareil, et c'est comme ça, et aujourd'hui je l'accepte et j'ai fait ce choix-là. Je dis pas que ça va durer toute la vie, et je pense qu'une femme qui entreprend, bah, il faut savoir qu'elle peut pas tout avoir dans la vie. Il faut faire des trade-offs. Je pense que quand on entreprend, d'autant plus.
Les sacrifices.
Donc ces sacrifices, voilà, il faut savoir lesquels on veut et il faut juste décider quoi. Mais c'est sûr que c'est pas facile.
Et en termes de modèles, tu vois, est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des ou hommes d'ailleurs? Mais qu'est-ce qui draine ton énergie? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui draine ton énergie, des modèles que tu as pu observer, indépendamment de ton père ou, tu vois, de...
Oui, oui. Écoute, bon, mon père, évidemment, ma mère aussi, pour d'autres raisons. C'est une femme extrêmement créative qui est très droite. Au-delà de ça, ton père fait partie des personnes que j'admire, tu le sais, qui était un peu un de mes mentors. Parce que, en fait, moi, ce que j'aime chez ton père, c'est son énergie, son amour du business, sa créativité, enfin son... C'est une personne, j'ai jamais vu quelqu'un qui, à son âge, a les yeux qui pétillent autant quand il parle de ses business. Affaires, de business. Ça, j'avoue que tu vois, tu te dis, c'est quand même incroyable de se dire qu'il a toujours autant, mais ce côté joueur de gamin, quoi, c'est assez magique. Donc ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup et que j'aimerais avoir aussi. Au-delà de lui, dans les femmes, bon, c'est très bateau ce que je veux dire, mais franchement, il y a peu de livres de femmes sur le monde du travail que j'ai autant apprécié, c'est celui de Sheryl Sandberg. Et donc Sheryl Sandberg, je trouve que quand même, elle a une vision qui est justement assez juste du travail de la femme, parce qu'elle dit à la fois qu'il y a des inégalités, mais en même temps, elle dit on est quand même aussi responsable en tant que femme d'une certaine manière, et il faut aussi nous se forcer à bouger les choses, il faut nous ne pas se mettre dans la situation de la petite fille au fond de la salle qui a peur et qui n'ose pas poser de questions, de lever la main. Non, il faut lean in, comme elle le dit, c'est-à-dire se pencher en avant. Je connais pas la traduction française du livre, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire avec Gémio. C'était pas naturel pour moi parce que j'étais plutôt timide à la base. Quand tu crées ta boîte, t'as pas le choix, t'es obligé d'aller de l'avant, t'es obligé de vendre. Enfin, et je dois dire que le livre de Sheryl Sandberg, c'est quand je l'ai lu, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'elle l'a écrit pour moi, alors que je pense qu'elle l'a écrit pour toutes les femmes et qu'on est toutes similaires. Et donc, c'est une personne que j'admire beaucoup de ce point de vue-là, alors qu'elle n'est pas entrepreneur du tout, finalement, tu vois.
Bah, ouais, elle l'est d'une certaine manière, mais pas, pas comme toi, en tout cas. Le podcast, Le Gratin. Je voudrais que tu me parles de la maturation de ce projet que tu as lancé maintenant il y a...
On a fêté les 1 an il y a... je me suis auto-fêtée les 1 an il y a un mois. Non, mais j'ai fait un grand dîner du gratin où j'ai invité tout... La semaine dernière où les invités, c'était génial. Ouais. C'était absurde parce qu'il y a tout autant des sportifs de haut niveau que des militaires. C'était très sympa. Très, très sympa. Le projet, d'où vient-il ? Il vient d'une période un peu de mou professionnellement. Ça faisait 6 ans que j'avais créé Gémio et je commençais à me dire, en fait, c'est le moment au bout de 6 ans où tu te dis, est-ce que tu continues ? Est-ce que tu t'arrêtes ? Tu te poses un peu la question.
C'est un virage, oui.
Et je me suis posé cette question et j'étais pas très bien, je pense, de me la poser en me disant oui, mais qu'est-ce que je vais faire, etc. En plus, comme c'est un business familial, du coup, c'est plus compliqué de se dire si je vais me retirer, qu'est-ce qui se passe. Et donc, je me sentais assez seule à ce moment-là. Je pense que je sentais que je tournais en rond et donc j'ai eu besoin d'air. Et j'ai commencé à prendre de l'air en faisant de la course à pied, figure-toi. Je me suis mis vachement à la course à pied et le fait d'être seule comme ça, d'avoir ce temps pour moi juste par plaisir, ça a été quelque chose qui m'a vachement aidée. Et il se trouve que j'écoutais des podcasts en faisant la course à pied parce que j'avais un copain américain qui m'avait dit, je m'ennuyais comme un rat mort quand je faisais ma course à pied évidemment, et j'ai un pote américain qui me dit, il faut absolument que tu écoutes des podcasts, tu vas voir, il y en a des trop bien sur plein de domaines différents, ça va te changer la vie.
Je te demanderai tes références.
je sais dire. Et donc j'ai commencé à faire ça et je me disais, mais ça m'a changé la vie et j'apprenais plein de choses. Un temps finalement qui avant n'était dédié qu'au sport était un temps d'apprentissage, donc je trouvais ça formidable. Et puis j'ai commencé ensuite à en écouter en me baladant dans la rue, en prenant le métro, etc. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans le monde du podcast français, parce que j'écoutais quasiment que des podcasts américains à cause de ce copain américain qui m'avait donné sa liste, si tu veux. Et je me rends compte que les podcasts français, quand je regarde dans le classement iTunes, c'est globalement que RTL, France Inter, Europe 1, il y avait à cette époque-là, mais aucun natif quasiment, ou très peu. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est trop dommage. Et donc, me disant ça, je me dis, mais il faut absolument que je lance mon podcast. Et non seulement je me suis dit ça parce que, on se refait pas, je suis un peu entrepreneur, mais aussi parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que je m'étais un peu isolée, comme j'étais pas très bien, si tu veux, personnellement, et j'avais vraiment ce besoin d'aller vers d'autres personnes. Et je me rendais compte que le podcast ne serait qu'un moyen, qu'un prétexte, soit de rencontrer des personnes que j'admirais, soit de juste, si tu veux, reparler à des personnes que je connaissais, avec qui j'avais jamais vraiment eu ces conversations-là, et juste d'avoir un prétexte pour leur poser des questions beaucoup plus personnelles, peut-être un peu comme t'es en train de faire avec moi. Et donc j'ai fait ça en me disant, non mais je le lance, je vais faire 4-5 épisodes, on voit bien si ça marche. Et je l'ai fait d'ailleurs, les premières personnes avec lesquelles j'ai fait, c'était que des personnes que je connaissais, avec qui, tu vois, j'avais confiance. Et en fait, ça, non seulement ça m'a plu énormément, mais en plus j'ai eu la chance que ça marche tout de suite très vite. Et donc je me suis complètement pris au jeu et ça m'a apporté, mais encore 1000 fois plus que ce que je pensais en termes humains, en termes de je te parlais du dîner du gratin, je me suis fait véritablement des amis.
Bien sûr.
Et puis surtout des amis que j'aurais jamais eu parce que j'étais toujours dans le même cercle, si tu veux. Je pense par exemple à la tatoueuse Marlène Le Cidre. Si tu veux, c'est une femme exceptionnelle, mais jamais de ma vie j'aurais rencontré cette femme si jamais j'avais pas fait le podcast. Et donc ces accidents, si tu veux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est ce que je souhaite continuer à cultiver dans le podcast, en fait, d'avoir des personnalités assez différentes, pas uniquement des entrepreneurs, parce que je pense aussi qu'on apprend beaucoup d'autres types de professions. Donc voilà, c'est ce que je continue à faire aujourd'hui.
Et ça fait 1 an justement, et quels sont tes... Si tu devais résumer l'année qui vient de s'écouler en termes de podcast, ça t'a apporté quoi ?
Ça m'a redonné honnêtement non seulement de l'énergie, mais l'amour du travail, de mon travail, des rencontres. Ça m'a redonné énormément confiance en moi aussi. Enfin, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Et puis, ça m'a donné envie de m'éclater dans ce que je fais encore plus. Et d'arrêter de penser que le travail n'est que... un labeur ou une recherche de succès ou... En fait, non, ça peut être vraiment quelque chose qui t'éclate. Et c'est le cas avec le podcast. Donc ça, c'est quand même assez magique de se rendre compte de ça. Donc voilà ce que ça m'a apporté. Ça m'a appris aussi plein de choses un peu techniques, si tu veux. Notamment la gestion des réseaux sociaux, ce que je faisais pas du tout avant. Comment mettre en ligne des podcasts.
Et puis, tu as créé un podcast aussi pour Gémio.
Ouais, exactement.
Chalalove.
Je pense que ce que ça m'a appris aussi, c'est que, et je le crois beaucoup, et j'étais un peu sortie de cet état d'esprit d'entrepreneur, c'est que les projets appellent les projets, que l'énergie appelle l'énergie.
Bien sûr.
Et souvent, plus tu sais, on dit, ah là là, tout le monde me dit, mais comment tu fais pour faire tout ça ? Mais en fait, plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Mm-hmm. Et je pense que c'est souvent comme ça. Les sportifs disent ça souvent. Plus tu fais du sport, plus tu as envie d'en Bien faire sûr. Et plus tu as de l'énergie, mm-hmm. paradoxalement. C'est exactement la même chose mm-hmm. avec, en tout cas, moi, le podcast. Et effectivement, le fait d'avoir créé ce podcast m'a donné envie d'en faire un pour Gémio, de lancer plein d'autres projets que je suis en train de lancer avec Gémio et avec le podcast. Mmh. Et voilà. Et donc je pense qu'il faut parfois arrêter de penser trop et faire un peu plus. Ça, c'est mon côté entrepreneur. Et moi, quand j'ai lancé le podcast, entre le moment où j'ai décidé et le moment où je l'ai fait, j'ai attendu peut-être 3 semaines le temps d'acheter les micros, etc. Mmh, donc, je pense que surtout pour ce genre de choses qui est assez simple quand même à mettre en place, où il y a assez peu de barrières à l'entrée, il ne faut pas hésiter à essayer, à se lancer. Mmh. Tout le monde ne va pas pouvoir faire un podcast qui cartonne parce que forcément, il y a une part de chance, il y a une part de relation, etc.
Mais toi, c'est un gros carton quand même.
Oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs, moi, qui me posent la question sur le podcast, qui me disent « Ah, mais j'ai envie de lancer mon podcast aussi, comment faire pour que ça marche ?» Malheureusement, tout le monde ne va pas pouvoir faire... Enfin, tu vois, tout le monde ne pourra pas avoir un podcast avec 30 000 écoutes par épisode. Mais en revanche, ça peut quand même vous apporter des choses. C'est pas que ça, en fait, qui fait le podcast. C'est les rencontres, c'est l'énergie que vous allez y mettre, c'est la réflexion, c'est autre chose aussi.
Tu as aujourd'hui des challenges différents. Enfin, qu'est-ce que demain... Imaginons demain, tu fais autre chose. Tu ferais quoi ?
Si je savais. J'ai pas mal d'idées. J'ai un problème de bande passante dont je me plains beaucoup à mes amis. J'ai pas mal d'idées autour du podcast. Pas de podcast, mais autour un peu de toutes les thématiques que je traite dans le podcast, de self-développement, si je puis dire, ou d'entraide entre des entrepreneurs. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire qui n'existent pas totalement.
Bien sûr.
Et donc ça serait des... Enfin, c'est des choses sur lesquelles je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à comment m'organiser pour faire ça. Mm-hmm. Mais voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille parce que je pense qu'on est encore à l'aube d'une ère autour de, je pense, cette réflexion sur soi, d'amélioration, de qui on est, de vouloir aussi progresser et puis d'entrepreneuriat qui est très à la mode. C'est drôle parce que c'était pas le cas quand on a lancé la boîte avec mon mari. Maintenant, c'est clairement beaucoup plus à la mode, mais je pense que c'est encore le début. Et je pense que ça fait sens aussi. Mm-hmm. C'est une mode parce que ça fait sens. Mm-hmm. Ma réponse est un peu vague parce que je ne sais pas exactement. Donc, je ne peux pas te donner de réponse précise. Et puis, je ne sais pas si je vais le faire parce que mon temps est quand même encore très, très lié à Gémio et que j'ai plein de choses à faire pour ça. Mais si j'avais le temps, je pense que je passerais un peu plus de temps sur tout ce qui est développement personnel.
C'est quoi tes plus grosses difficultés dans ta boîte aujourd'hui ? Quels sont les leviers, si tu veux, que tu as utilisés pour que tu tiennes ? Parce que, encore une fois, je tiens à préciser que
Ça fait 7 ans.
Une des rares. Voilà.
7-8 ans.
Ouais. Exactement. Et toutes les deux, on est entourées d'entrepreneurs. C'est rare, en fait, les gens qui tiennent plus de 3 ans. Non, c'est pas ça. C'est au contraire, c'est de la ténacité, tu vois, parce que j'ai vu beaucoup de gens entreprendre et puis finalement faire ça comme un projet de fin d'études et se dire, au final, si ça plante, c'est pas grave. Je me permets juste d'insister là-dessus. C'est quoi les facteurs de durabilité ?
C'est une excellente question. J'y ai jamais réfléchi à proprement parler.
Dans notre période, tu vois pas vraiment à notre période.
Moi, je pense que ça vient beaucoup de l'éducation de mes parents qui m'ont appris la discipline, franchement. Mon père est un grand sportif, ma mère est une créative, mais qui est très disciplinée en fait dans sa manière d'apprendre et de se cultiver. Et donc j'ai appris, si tu veux, tout simplement que pour réussir, il faut travailler et que ça va pas se faire en un jour. Et mon père, si tu veux, il a arrêté ses études à l'âge de 16 ans. Il est parti de chez ses parents à l'âge de 16 ans et il a bossé toute sa vie. Mmh. Et en fait, il m'a juste dit, moi, j'ai commencé à bien gagner ma vie à l'âge de 40 ans. Donc, en fait, tu fais le calcul, ça prend un peu de temps et ça se fait pas en 2 jours. Et je pense que les mythes, entre guillemets, tu vois, enfin, c'est pas des mythes, hein, y en a pour qui ça fonctionne, qui arrivent à créer une boîte, faire une culbute en 2 ans et à revendre ça des millions, des milliards, ça existe. Mais je pense que ce n'est pas la réalité de 99,9% des gens. Je pense que c'est important de le dire. Et même si Gémio est un succès, ce n'est pas en 7 ans, si tu veux, que tu crées une boîte qui va être le prochain Cartier. Mmh. C'est en beaucoup plus de temps que ça. Cartier, c'est à 250 ans d'âge, si tu veux. Mmh. Donc, en fait, je pense que ça, cette réalité, je l'ai intégrée assez vite. assez tôt. Moi-même, j'ai fait beaucoup de ski quand j'étais plus jeune à assez haut niveau. Et en fait, si tu veux, pour progresser, bah, juste tu fais des heures et des heures et des heures et des heures. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on progresse. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et que j'accepte et même qui me plaît finalement. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose qui a fait qu'on a non seulement tenu chez Gémio, mais qu'on est content de le faire quand même encore au bout de 7-8 ans, c'est d'apprendre à se réinventer. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. J'aime les routines d'une certaine manière parce que j'aime la discipline, mais j'aime aussi assez régulièrement me reposer des questions et me redemander pourquoi je fais les choses. Tu vois, je le fais assez systématiquement une fois par an, bêtement, tu vois, au moment du 1er janvier, les bonnes résolutions. Mmh. C'est pas vraiment des bonnes résolutions, mais c'est plus, bah, en fait, qui je suis, qu'est-ce que je veux, est-ce que je veux encore ça, est-ce que mon plan est encore bon. Tu vois, je me force à me reposer ces questions, à me redemander, par exemple, mes routines de sport ou des trucs dans le genre, est-ce que je veux les garder, est-ce que je veux pas les garder. Et en fait, ça te force à te sortir de ta zone de confort et puis à te réinventer. Et c'est quelque chose pour lequel je suis assez sensible parce que dès que je sens que je suis pas très bien, que je suis plus à fond, j'ai besoin de trouver un moyen d'être à nouveau à fond. Parce que moi, j'aime pas faire les choses si je suis pas vraiment intéressée. Mmh. Et du coup, je trouve des moyens. Donc le podcast a été une manière de se réinventer. On a eu plein de manières différentes de se réinventer avec la boîte. Et je pense que ça, c'est un conseil que je peux donner finalement. C'est parfois très difficile en fait de se projeter à 10 ans. Et en fait, il vaut mieux avoir des projets pendant 2-3 ans ou des envies pendant 2-3 ans. Ça te permet d'avancer en te disant bah, ça peut changer au bout de 2-3 ans. Tu vas peut-être changer de poste, de rôle. Tu vas peut-être recruter de nouvelles personnes pour, pour développer l'entreprise. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un moment où il faut essayer de couper, je trouve, un peu séquencer l'évolution de la boîte parce que sinon, c'est trop compliqué de se dire si je m'étais dit j'en ai pour 30 ans, comme ça, pareil, sans changement. Si tu veux, c'est une horreur. T'es fatigué, ça te donne pas envie. Je pense que ce qui fait donner envie de durer, et ce qui est le cas pour nous, je pense, chez Gémio, c'est la notion de progrès et de voir qu'il y a du progrès. Et donc, typiquement, bah, je parlais de recrutement, avoir des personnes qui sont des piliers fondamentaux dans ton entreprise, savoir que tu peux partir tous les associés en vacances pendant 2 semaines et qu'il n'y a pas de souci, ça, c'est une notion de progrès qui est forte, tu vois. Et donc, je pense que ce progrès, cette réinvention, c'est ça qui fait qu'on tient dans la durée. Parce que je pense que l'homme n'est pas fait pour vouloir stagner.
Tout c'est simplement. Évident. Et comment on vit une levée de fonds? Parce que tu as eu pas mal d'investissements. Enfin, je veux dire, sauf si tu veux pas en parler.
Non, avec plaisir.
Mais moi, je suis assez étonnée des process de levée de fonds. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée.
Oui, pour quelqu'un qui a que des boîtes rentables from day one dans ta famille, je sais que c'est un concept un peu bizarre.
Non, mais je voudrais que tu me donnes ton point de vue avec du recul sur ce que représente une levée de fonds.
Bah, écoute, malheureusement, j'ai envie de te dire
si c'est possible.
C'est une question pas facile, mais ce qui est certain, c'est quand tu crées ta boîte au début, ça reste une validation. C'est une énorme validation de personnelle, de ton travail, de ton business model. D'ailleurs, on l'a bien vécu quand on était dans notre école de commerce toutes les deux. Enfin, honnêtement, au début, quand tu crées ta boîte, la fin en soi, l'objectif, c'est la levée de fonds. C'est pas d'être rentable, c'est pas de faire du chiffre d'affaires, c'est la levée de fonds. Mmh. Et ça, je pense que c'est nuisible, mais bon, ça reste pour l'avoir vécu quand même un moment qui est très fort. Et tu vois, si je devais citer, je peux pas le faire, j'ai pas réfléchi, mais quelques grands moments chez Gémio dont je me rappelle. Oui, la première levée de fonds, je me rappelle très bien que c'était un moment, si tu veux, où on avait l'impression qu'on était les rois du monde, alors qu'on avait levé, je me rappelle pas, 400 000 euros. Enfin, à l'époque, c'était pas mal, mais c'est pas des sommes énormes. Donc, je pense que c'est une validation. Après, là où il faut faire attention, c'est que ça reste un peu une validation, mais il faut pas le prendre comme le facteur, si tu veux, clé de succès de ton entreprise. C'est pas du tout ça, parce qu'on a quand même vu beaucoup de boîtes se planter, avoir fait de très grosses levées de fonds. Donc moi, mon constat sur la levée de fonds, c'est que déjà, il faut se demander si on en veut une, si c'est entre guillemets un mal nécessaire ou pas, parce qu'il faut quand même se rendre compte que faire des levées de fonds, ça veut dire avoir des actionnaires dans son entreprise, parce que pour les auditeurs peut-être qui ne savent pas ce que c'est on va lever de l'argent, donc on va demander de l'argent à des investisseurs extérieurs, et en échange de quoi, on va leur donner des parts de l'entreprise. Donc ça veut dire que vous n'avez plus 100% de la boîte, vous avez donné, je sais pas, 10, 15, 20%, 30% de la boîte. Du coup, ça veut dire que vous avez des personnes qui ont leur mot à dire, mmh. tout simplement. Donc, il faut quand même s'en rendre compte et se rendre compte que quand on commence en général avec une levée de fonds, on va en faire d'autres derrière. Et donc, à chaque fois, on se dilue de plus en plus. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et je pense qu'il faut se dire, est-ce que c'est ce que je veux pour ma boîte ou est-ce que je veux que ma boîte soit rentable depuis le premier jour, que, bah, en fait, quand je génère un euro de chiffre d'affaires, j'en remets un petit peu, je remets 50 centimes dans l'entreprise. C'est comme ça, en fait, que la plupart des entreprises, des PME, enfin, jusqu'à il y a très peu de temps, se développaient. Donc, je pense qu'il faut se poser cette question. Et si jamais vous faites le choix de la levée de fonds, qui a plein d'avantages, notamment le fait d'aller plus vite, parce que dès qu'on a de l'argent, forcément, on peut plus investir, donc plus apprendre, bah, il faut se rendre compte voilà, des inconvénients que ça a aussi, donc d'avoir des actionnaires extérieurs. Et puis surtout, d'être souvent dans une course, en fait, à la levée de fonds, parce que dès que vous avez des actionnaires extérieurs, ils ne sont pas méchants, mais ils veulent que vous fassiez du chiffre.
Bien sûr.
Donc, vous voulez faire du chiffre, donc vous dépensez, donc vous perdez de l'argent et donc vous allez devoir relever de l'argent. Et voilà, et c'est pour ça qu'on entend parler souvent de ces boîtes qui se plantent. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec Gemio, on a fait le choix d'être rentable.
Ouais.
C'est qu'en fait, on voulait stopper la course en avant, si tu veux.
Qu'est-ce que tu penses actuellement justement du marché du e-commerce français? Moi, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus parce que perso, j'y connais rien. Comment ça se... T'as des exemples autour de toi, pas forcément dans la joaillerie, tu vois, mais est-ce que t'as des exemples de boîtes e-commerce que t'admires ?
Oui, alors en France...
Ouais, j'insiste sur la France parce que c'est difficile de trouver des modèles.
C'est pas, il faut que j'y réfléchisse, ça va, je vais pas me faire que des amis. En fait, non, mais il y a plein de très très belles boîtes. Ce qui est pas facile avec le e-commerce pur, donc le e-commerce et vendre sur un site internet, c'est que déjà... Beaucoup de e-commerçants en fait sont des revendeurs, c'est-à-dire qu'ils ont pas leurs propres produits si tu veux. Ça peut être des marques aussi, mais souvent c'est des revendeurs. Ça va être
marketplace,
etc.
C'est ce que tu veux dire. Ouais.
Soit des marketplaces quand c'est pas eux qui font l'expédition directement, soit vraiment un site e-commerce et j'achète du stock de telle ou telle marque et je le revends. Ouais. Et je l'expédie moi-même. Malheureusement, la réalité c'est que il y a très peu d'acteurs qui arrivent aujourd'hui à être rentables. C'est souvent extrêmement onéreux parce que les clients sont très exigeants, que ça coûte très cher en fait d'expédier des produits, que Logistique, Amazon a créé en fait des normes, notamment le retour quasi ad vitam aeternam, le fait que tu sois expédié en 2 jours. Enfin, sincèrement, il y a peu de boîtes qui s'en sortent à cause de toutes ces contraintes. Exactement. Ouais. Moi, une boîte quand même là, tu vois, pour répondre à ta question que j'admire, notamment à cause du parcours et des personnes derrière, c'est La Redoute.
Ouais.
La Redoute, incroyable. Qui est quand même était moribond
ouais.
et qui, grâce à notamment Nathalie Ballack, ouais. j'avais eu d'ailleurs la chance d'interviewer.
Super
dans
interview
podcast.
D'ailleurs que je recommande, que j'ai écouté.
Femme incroyable. C'est une femme et son associé aussi sont assez extraordinaires parce qu'ils ont quand même vraiment complètement redressé en faisant des choix très difficiles, de quand même faire des plans de licenciement, etc. Mais en mettant toujours énormément d'humains, de sorte que les personnes qui étaient restées à La Redoute, mais étaient, si tu veux, avaient une envie et une conviction pour ce nouveau projet qui était colossal. Et donc, ils ont réussi à le sortir de terre. La Redoute s'est fait racheter par les Galeries Lafayette et donc c'est un vrai succès. Mais c'est assez rare finalement,
bien
tu
sûr.
Vois. C'est assez rare. Donc, j'ai pas vraiment répondu à ta question. Je dis juste que c'est pas facile et que je pense que c'est pas la poule aux œufs d'or qu'on peut penser, qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrence et qu'il y a souvent assez peu de rentabilité derrière. Surtout quand on ne crée pas son produit soi-même. Parce que souvent, la marge, en fait, elle est plus sur la production du produit que sur juste le fait de revendre, si tu veux, des choses qui sont en stock. Parce qu'en tout cas, en plus, le problème d'Internet, et je termine sur ce sujet, c'est que souvent, les consommateurs y vont pour le prix, pour un très bon prix,
Bien
le
sûr.
Meilleur prix. Et en fait, du coup, tu es un peu obligé de faire des soldes en permanence, des remises. C'est le problème, d'ailleurs, pour beaucoup d'e-commerçants. Nous, il se trouve que chez Gemio, on ne fait pas de remises, donc au moins, le problème est réglé. On sait qu'on perd beaucoup de ventes à cause de ça, mais à l'inverse, au moins, les clients savent à quelle sauce ils vont être mangés. Le problème, si tu veux de faire des remises à outrance, c'est que tu perds de l'argent en permanence. Quoi. Tu peux pas survivre.
Est-ce que tu aurais des références de bouquins ? Je sais que dans ton podcast, tu en parles souvent.
C'est une horreur parce qu'en fait...
Mais je sais que tu deviens une bibliothèque ambulante.
Je lis pas mal.
Mais là, comme ça, si tu devais me donner, je sais pas, 2-3 titres de livres qui t'ont marqué récemment ou pas d'ailleurs. Ça peut être tes livres de chevet. Hein.
Si. Alors moi, il y a un livre qui n'est pas du tout drôle, mais que j'adore et que je relis régulièrement. Et tu me dis le livre de chevet, il se trouve que je l'ai remonté aujourd'hui pour le relire. C'est en fait, j'ai un peu l'intégrale de Sénèque. Alors tu vas me dire, mais quelle horreur.
Non, pas du non. tout. Bah, c'est pas moi j'ai qui vais dire ça.
J'ai l'intégrale de Sénèque, donc qui est un philosophe stoïcien. La raison pour laquelle j'adore ce qu'il fait, c'est que c'est, je pétris de bon sens. C'est pas de la philosophie compliquée à lire. Moi, j'ai fait des études littéraires, donc honnêtement, des trucs imbuvables, je m'en suis pris quand même beaucoup. Et pour le coup, Sénèque, c'était vraiment parmi les auteurs, et ça depuis le bac, que j'ai toujours apprécié, parce que c'est en fait une leçon de vie permanente. Et il y a notamment donc, ces fameuses lettres à Lucilius, où Sénèque est le mentor de ce jeune homme Lucilius, et va lui donner des conseils sur la vie, sur quand tu perds un être cher, qu'est-ce que, comment tu dois le gérer. Sur, c'est vraiment très pratique, si tu veux. Et c'est des choses qui, moi, m'ont toujours touchée. J'aime bien le stoïcisme de façon générale, qui est une philosophie selon laquelle tu fais le maximum pour arriver à tes objectifs, tu te bats, mais si jamais ça ne fonctionne pas, tu l'acceptes si tu veux, et t'acceptes de passer à autre chose, et en fait tu te rends compte que c'est aussi beaucoup dans la tête les problèmes. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez à l'ordre du jour, et donc j'aime bien Sénèque. Après, au-delà de Sénèque, dans des livres un peu plus modernes, il y en a plein. Il y en a un que j'aime bien, que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps, que je peux recommander, qui s'appelle Essentialism, d'un auteur, je crois qu'il est américain, qui s'appelle Greg McKeown, c'est imprononçable, que je te recommande d'ailleurs. C'est un livre que m'avaient recommandé plusieurs personnes sur le podcast et que j'ai fini par lire, et qui est assez court. Il existe en plus en audiobook, donc il se trouve, moi d'ailleurs je l'avais écouté d'abord, et il part du postulat que, un peu comme je l'expliquais, dans la vie, il faut faire des choix et qu'on ne peut pas tout avoir et qu'il faut accepter les sacrifices, mais qu'en fait, c'est pour la bonne chose, parce qu'en fait, il faut se concentrer sur les choses qu'on veut vraiment. Donc, être un essentialiste, c'est justement savoir quelles sont vraiment les choses qui t'importent et essayer de se débarrasser du reste, évidemment avec grâce, mais quand même, si tu veux, ne pas essayer de tout faire parce que c'est impossible. Et il donne énormément d'exemples assez précis et assez concrets qui sont hyper intéressants. Par exemple, il va expliquer, et c'est un peu le début du bouquin, si je me rappelle bien, que lui, donc, travaillait énormément, était dans un cabinet de consultant, et un jour, sa femme accouche, et son client lui dit, en fait, je suis désolée, mais si tu n'es pas là ce jour-là, et il se trouve que c'est le jour où sa femme accouche, en fait, la réunion va très très mal se passer. Et en fait, à un moment donné, il se dit, non mais entre ma femme qui accouche, être là avec mon enfant, ou être avec cette réunion d'un client qui est très bien, mais que j'en aurais mille autres comme ça, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et en fait, il se rend compte à ce moment-là, il a une espèce d'épiphanie, qu'évidemment, le plus important, c'est d'être avec sa femme. Et du coup, se rend compte qu'il y a tout un certain nombre de choses où il se mettait, si tu veux, des schémas mentaux pour se forcer à faire les choses, alors qu'en fait, non, il fallait juste faire des choix et te dire, ma priorité, c'est ça. Et donc, lister ses priorités pour être sûr, en fait, de les suivre après.
Et donc, c'est très intéressant.
Donc, c'est un bouquin que je recommande. Deuxième bouquin. Après, s'il y a un autre livre, il y a sincèrement des livres, j'en lis beaucoup, beaucoup. Pas forcément que des livres en plus de développement personnel, j'aime bien la littérature aussi. L'un de mes grands livres de chevet, je n'ai pas honte de le dire, mais que je trouve absolument formidable. Pour dire ça, quand même, je suis une ancienne normalienne, donc c'est un peu la honte, mais quand même, je vais le dire, c'est Le Seigneur des Anneaux.
Pourquoi ?
Mais parce qu'il n'est pas considéré, si tu veux, par les...
Mais ça reste un chef-d'œuvre quand même, non ?
Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et ce que j'aime dans Le Seigneur des Anneaux, tu parlais d'endurance et du fait d'aller vers son objectif. Enfin, je pense que si tu veux, en termes de, en termes de modèle, d'une volonté, si tu veux, malgré les coups durs, malgré le fait que ça paraît complètement insurmontable, d'y aller quand même, ce sens de l'effort, c'est quelque chose qui me parle pas mal, et je trouve que c'est assez poétique, en plus, dans Le Seigneur des Anneaux.
J'ai pris l'habitude de terminer les interviews en posant une question. Coup de cœur, coup de gueule. Tu choisis. T'es pas obligé de passer un coup de gueule, parce qu'il y a des gens qui me répondent je passe pas de coup de gueule. Mais un coup de cœur que t'aurais eu, je sais pas, ça peut être un film, ça peut être un voyage, ça peut être peu importe, un truc qui t'a marqué récemment, où tu t'es dit waouh.
Écoute, c'est une bonne question. Je vais plutôt faire coup de cœur, parce que là, des coups de gueule, j'en ai pas eu très récemment. Coup de cœur, j'ai envie de te dire pour toi, Estelle.
Oh là là. Non, mais j'ai le droit à une bague Gémio ou pas?
Peut-être, écoute, ça se négocie. Non, mais voilà, déjà, je te remercie de m'avoir invité dans le podcast. Et puis, je trouve que ce que tu fais, c'est formidable.
Merci.
J'ai énormément apprécié un certain nombre de tes épisodes, notamment c'est pas l'un des derniers, mais un des récents avec Charles Pépin, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et voilà, et je voulais te dire qu'il faut que tu continues, c'est génial. Et je suis pour cet élargissement en plus de réel à des lointaines contrées.
Là, il n'y a plus de ligne directrice.
Il n'y a plus de limite.
Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Pauline. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation et une bonne chance pour la suite.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.